Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La délégation de l'Institut de l'ASEAN pour la paix et la réconciliation, ou ASEAN IPR, a visité en Suisse. L'Indonésie augmentera les exportations de café dans la région Marseillaise en France. Le marchand de Bugis développe le tourisme basé sur la sagesse locale. Lors de la réunion du G20, Jonan a expliqué la stratégie de transition énergétique en faveur de l'environnement. Les nouilles d'Aceh est destinée à devenir un aliment de classe mondiale. Homestay ou une famille d'accueil pourrait aider à atteindre l'objectif de 20 millions de touristes étrangers. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La délégation de l'Institut de l'ASEAN pour la paix et la réconciliation, ou ASEAN IPR, a effectué une visite de travail en Suisse dans le but d'échanger des expériences sur les installations de paix appartenant au gouvernement suisse. L'ambassade d'Indonésie à Berne a indiqué dimanche à Antara, Jakarta, qu'au cours de la visite du 12 au 14 juin, l'ASEAN IPR a également l'intention d'étudier les possibilités de coopération avec SwissPeace, l'une des principales institutions suisses pour la question de la médiation en cas de conflit. L'ambassadeur d'Indonésie, Mulyaman D. Haddad, qui représente le comité de l'ASEAN, a exprimé son soutien à l'ASEAN IPR afin d'étudier l'expérience de la Suisse en matière de facilitation de la médiation, parce que ASEAN IPR était une nouvelle institution de l'ASEAN. La délégation ASEAN IPR a rencontré divers partis du gouvernement suisse et plusieurs institutions célébrées dans le domaine de la médiation et de la paix, entre autres SwissPeace et le Comité international de la Croix-Rousse. Cette activité visait à partager les meilleures pratiques et les leçons apprises sur l'installation de maintien de la paix. L'Indonésie veut augmenter les exportations de café dans la région marseillaise en France. Marseille possède un centre de l'industrie du café avec un large réseau. Le consulat général de la République d'Indonésie à Marseille, Asianto Sinambela, qui accompagnait la visite du travail du ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, à Marseille, a déclaré que les jeunes indonésiens avaient de bonnes chances d'étudier à Marseille dans le domaine de compétences qui était une supériorité française. Ces avantages, comme par exemple le processus de fabrication de parfums et du traitement du café, Asianto a été déclaré, cité par Detik Online dimanche. Darmin a visité Marseille le vendredi 14 juin 2019, également le centre de l'industrie du café André Blanc. La visite à Marseille a été une série de visites de travail après la ville de Grasse afin de promouvoir le renforcement des relations économiques et commerciales avec le sud de la France. Darmin et Asianto ont rencontré le maire de Marseille, M. Jean-Claude Godin. Les deux parties se sont engagées à établir des contacts commerciaux le plus large possible, notamment pour créer une voie commerciale directe pour les produits de café indonésiens. Le maire Jean-Claude Godin a salué le souhait de l'Indonésie d'intensifier ses relations commerciales avec le sud de la France et s'est senti très aidé par la présence de représentants diplomatiques étrangers dans l'établissement des relations commerciales avec les pays amis. Chafruddin, ministre de la réforme administrative et de la réforme bureaucratique de la République d'Indonésie, a invité tous les hommes d'affaires regroupés dans le marchand de Bugis Makassar à développer le potentiel touristique de Sulawesi du Sud en combinant la sagesse locale et le progrès technologique. Le ministre Chafruddin, lors de l'ouverture de la 19e réunion de marchands de Bugis 2019 à Makassar, dans le sud de Sulawesi, a appelé les hommes d'affaires de Bugis Makassar à développer le sud de Sulawesi avec tout son potentiel touristique comme secteur de premier plan de développement basé sur la sagesse locale pour remporter des défis à encourager la croissance économique durable. Il a déclaré qu'à l'ère de la mondialisation, de nombreux pays qui se font concurrence pour développer des destinations touristiques combinées avec la technologie, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui actuellement ne comptait plus sur le pétrole comme principale source de revenus et avait lancé le méga-projet NEOM en tant que ville de l'avenir et le tourisme comme principale source de revenus. Monsieur Chafruddin pense que l'Indonésie peut également développer le potentiel du tourisme religieux. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Lors de la réunion ministérielle du G20, le ministre Ignatius Jonan avec la ministre des Forêts et de l'Environnement, Madame Siti Nurbaya, ont discuté de la transition harmonieuse de l'énergie, ou PRO, avec la protection de l'environnement dans la ville de Karuizawa, à 150 km au nord de Tokyo, au Japon. La réunion ministérielle conviendra de l'engagement énergétique du G20 dans le document complet du communiqué ministériel qui a été discuté lors du groupe de travail sur la transition énergétique. C'est ce qu'a informé Antara, recueilli auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales à Jakarta dimanche. En intégrant la question du changement climatique, le Japon soulève le thème principal de la transition énergétique et harmonie avec la protection de l'environnement et la croissance économique. Dans 3E plus S, à savoir la sécurité énergétique, l'efficacité économique et l'environnement et la sécurité. À cette occasion, l'Indonésie cherche à faire des efforts et une réponse stratégique, si bien que le secrétariat japonais du G20 aborde un certain nombre de questions dans le troisième projet de communiqué, entre autres ancrer les objets de développement durable ou le programme de 2030 en tant que référence principale de communiqué en reconnaissance la mise en œuvre de différentes transitions énergétiques en accord avec ODD. Le ministère du Tourisme espère que les affaires homestay ou la famille d'accueil, qui est intensément socialisée dans les zones touristiques, peut aider le gouvernement à augmenter le nombre d'arrivées des touristes étrangers. Anneke Prasanti, responsable de l'équipe chargée du programme d'accélération du développement de homestay dans le village touristique, a déclaré que homestay du village touristique est inclus dans les trois programmes prioritaires du ministère du Tourisme. Ce programme a été mis en œuvre pour répondre à la réalisation des aménités sous la forme d'hébergement et de logement. Le développement de homestay de villas touristiques utilise les logements existants pour avoir l'impact économique direct sur les villageois. C'est ce qu'a déclaré Anneke Prasanti dans son communiqué officiel reçu par republica.co.id dimanche. Elle a déclaré que le développement du secteur du tourisme doit être fait de manière égale. En effet, il vise à améliorer la qualité des services touristiques, la gouvernance des destinations touristiques et la capacité des hommes d'affaires du tourisme. Elle a ajouté, l'Indonésie avait plus de potentiel de diversité résidentielle que des autres pays de l'ASEAN et pourrait devenir un atout touristique. Les villages touristiques ou homestays sont développés par le ministère du Tourisme dans la zone touristique préférée Tana Toraja, en province de Sulawesi du Sud. Le maire de Banda Aceh, Aminullah Usman, est déterminé à faire des nuits d'Aceh comme l'aliment de classe mondiale parce que son goût est si célèbre, notamment en Indonésie. Il a déclaré à Banda Aceh dimanche concernant la question. Le maire invite les touristes étrangers à assister au festival Mi Aceh 2019 qui se tiendra au Blanc Padang, Banda Aceh, jusqu'au 17 juin. Le gouvernement de la ville de Banda Aceh a organisé le festival pour présenter Mi Aceh. Le festival de Mi Aceh vise à introduire une variété de Mi Aceh aux touristes. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Préserver le patrimoine culturel par la fête des arts de Bali ». Bali est connu sous le nom de l'île de Dio ou l'île de mille temples. Elle est en effet réputée pour sa beauté dans le monde entier depuis longtemps, même depuis l'ère coloniale néerlandaise. L'île de Bali n'est pas seulement célèbre pour la beauté naturelle et ses plages, mais aussi pour sa culture et ses arts. On peut trouver presque tous les types d'arts sur cette île, tels que la danse, la sculpture et la musique. La richesse de la culture et de l'art doit être préservée dans le contexte actuel et modernisation, y compris la mondialisation. L'un des efforts déployés consiste à organiser la fête des arts de Bali, l'événement annuel organisé depuis 1979. La fête des arts de Bali est le défilé ou le festival d'art annuel organisé par le gouvernement provincial de Bali. Cette activité est le forum pour les activités et la créativité des artistes afin de soutenir les programmes gouvernementaux en matière de préservation et de développement des valeurs artistiques balinaises. Le Festival des Arts de Bali a eu lieu pour la première fois en 1979. Généralement, a été ouvert par de hauts responsables de l'État. Le festival de cette année a été ouvert par le président indonésien Joko Widodo au monument commémoratif de la lutte pour la lutte du peuple à Bali, Niti Mandala Reno, dans la ville de Denpasar, Bali. Bien que le nom soit le Festival des Arts de Bali, tenu de 15 juin au 13 juillet 2019, il est participé par 41 participants, à savoir 9 participants de Bali, 21 participants de l'extérieur de Bali et 11 participants étrangers, entre autres la République populaire de Chine, le Japon, l'Inde, Singapour et les États-Unis. La fête est également un moyen de préserver la culture, comme par exemple de préserver la danse Janger Kedaton qui existait depuis 1906. Cette danse est également connue sous le nom de Janger Sesungsungan Krama Banjar Kedaton. Cette danse est l'un des patrimoines culturels de Denpasar. Le Festival des Arts de Bali est un moyen d'explorer et de préserver les arts culturels et d'améliorer le bien-être des gens. L'exploration et la préservation des arts culturels comprennent la philosophie, les valeurs nobles et universelles, les concepts de base, le patrimoine culturel d'objets et non d'objets, qui a une grande valeur historique, la science et l'art en tant que représentation de la civilisation et le développement de l'art par la création, l'innovation, l'adaptation culturelle, dans l'espoir qu'il restera vivant et durable dans un contexte de changement de temps et dans l'environnement en constante évolution. Espérons que l'authenticité, la sagesse et la philosophie de Bali seront préservées et continueront de croître et de se répandre dans le monde entier. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 17 juin 1959, Abdul Muiz est décédé. Abdul Muiz est un écrivain et journaliste indonésien. Sa dernière éducation a eu lieu à Stovia, aujourd'hui faculté de médecine de l'Université d'Indonésie à Jakarta, bien qu'il n'ait pas obtenu son diplôme. Il était autrefois journaliste à Bandung, entre autres dans le journal néerlandais et le magazine Neraca, dirigé par Haji Agus Salim. Abdul Muiz était auparavant le rédacteur en chef de Kaum Muda, avant de fonder le journal Kaum Kita en 1924. Il a écrit de nombreuses œuvres littéraires, notamment Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Surapati et Robert Anak Surapati. Son œuvre littéraire intitulée Salah Asuhan est un chef d'œuvre très célèbre de Abdul Muiz. Il est décédé à Bandung, Java West, le 17 juin 1959 à l'âge de 75 ans. Le président de la République d'Indonésie, Sukarno, l'a confirmé en tant que héros national le 30 août 1959. Le 17 juin 1950, la grève des reines a été réalisée pour la première fois à Chicago, aux États-Unis. La première grève des reines à Chicago le 17 juin 1950 a été faite contre la patiente Ruth Tucker, 44 ans. La transplantation rénale a toujours des problèmes en raison du rejet par le corps du patient. Alors que d'autres greffes de reins ont été réalisées en 1954 à Boston aux États-Unis et à Paris en France et ont abouti parce que le corps de la patiente n'avait pas été refusé. La plantation rénale est une thérapie de remplacement du rein qui implique des greffes de reins de personnes vivantes ou décédées à des personnes dans le besoin. La transplantation rénale est le traitement de choix pour la plupart des patients atteints d'insuffisance rénale au stade terminal. La transplantation rénale est une option pour améliorer la qualité de vie des patients. Le 17 juin, la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. La Journée mondiale de la lutte contre la désertification, commémorée le 17 juin, constitue un élan pour sensibiliser le public à la coopération internationale en matière de lutte contre la désertification et les effets de la sécheresse. Depuis 1994, l'Assemblée générale des Nations unies a publié la résolution de l'Assemblée générale selon laquelle le 17 juin est la journée mondiale de la lutte contre la sécheresse dans le monde. Cet avertissement vise à sensibiliser davantage le public à la lutte contre la dégradation des sols et de la sécheresse dans les pays graves touchés par la sécheresse ou la désertification, notamment en Afrique. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bagai embun pagi, kau lepas. lepaskan dahaga kemarau hati. Kaulah lukisan pagi aku gambar untuk senjaku. Kaulah selaksa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku bermuara.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Muara, chantée par Adera. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée 4 sociétés d'État indonésiennes inscrites sur la liste la plus vaste des sociétés ouvertes du monde de la version Forbes. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre 4 sociétés d'État indonésiennes inscrites sur la liste la plus vaste des sociétés ouvertes du monde de la version Forbes. 4 sociétés d'État indonésiennes ont été incluses dans la liste des plus grandes sociétés publiques du monde en 2019, publiée par Forbes, un magazine économique américain. Il s'agit des sociétés suivantes: PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telekomunikasi Indonesia et PT Bank Negara Indonesia. La ministre des Entreprises d'État, Rini Sumarno, a déclaré jeudi à Jakarta que la reconnaissance et l'appréciation internationale de la performance des sociétés d'État indonésiennes témoignait de leur sérieux dans la réalisation d'une vision à long terme de services comme fournisseurs et ayant les meilleures performances. Elle était très fière du classement Forbes qui montre que les entreprises d'État indonésiennes sont fortement compétitives par rapport aux autres grandes entreprises mondiales. Forbes a publié une liste des 2000 plus grandes entreprises publiques mondiales en 2009. Les sociétés sélectionnées sont réparties dans 61 pays. Les critères de plus grandes entreprises publiques mondiales sont la taille de la capitalisation boursière, des ventes ou revenus, des bénéfices et des actifs en 2018. Dans cette liste, BRI occupe la position de 363. Pendant ce temps, Bank Mandiri est dans la position 481, PT Telkom Indonesia 747 et BNI est de 835. La ministre Rini Sumarno a souligné que la reconnaissance et l'appréciation internationale de la performance de ces sociétés d'État étaient indissociables de leur performance en pleine croissance. grâce au travail dur et aux synergies créées par la vision des sociétés d'État indonésiennes, une nation, une vision, une famille vers l'excellence. Selon elle, les résultats positifs seront préservés et augmentés de manière à continuer à servir le pays en devenant des agents de développement centrés sur l'amélioration du bien-être des citoyens. Il a ajouté que son ministère s'était engagé à améliorer en permanence les performances et les services de toutes les entreprises publiques. Ce retour, c'était Mondonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh, oh.
Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Jusqu'au bout du temps, chantée par Sandy Sandoro et Fit Monita. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Thank you.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter le karst de Sangkulirang Mangkalihat à Kalimantan Est. Le karst de Sangkulirang Mangkalihat est situé à l'est de Kutai, Kalimantan Est. Comme d'autres régions karstiques, Sangkulirang Mangkalihat est entouré de murs escarpés, de grottes souterraines avec les sorties naturelles sculptées et des collines verdoyantes. La beauté du groupe karstique géant s'étend de la résidence de l'est de Kutai à la résidence de Berau. Le complexe du karst Sangkulirang Mangkalihat abrite des dizaines de grottes riches en patrimoine préhistorique. Le complexe karstique atteint 1,8 million d'hectares. Le complexe comprend 550 000 hectares de la principale zone d'écosystème. Selon la recherche, le complexe karstique donne des informations sur les traces d'anciens êtres humains que l'on peut voir à partir de peintures à la main, de peintures de bateaux et de peintures de divers types d'animaux sur les murs. Lors de son exploration, le complexe karstique Sangkulirang Mangkalihat comprend certaines parties sur des dizaines de grottes qui ont une longue couloir avec un ornement naturel et des stalactites et stalagmites étonnantes. Si vous partez de Samarinda, la capitale de Kalimantan Oriental, cela prend environ 8 à 9 heures par transport terrestre. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain.
Voice of Indonesia.
Hanya engkau yang satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu. Dalam cinta Rosanna,
bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta. Rosanna,
chers auditeurs, c'était la chanson de Marcel intitulée Rosanna. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la musique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Dia belum pulang ya ?» En langue française, il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Dia belum pulang ya ?» En langue française, il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Tony et Enda parlent sur le travail.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir dia belum pulang ya. Dia belum pulang ya, en français. Il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Mas Joko belum pulang ya. Mas Joko belum pulang ya. En français, Mas Joko n'est pas encore rentré à la maison, n'est-ce pas? Dia bilang ada rapat di kantornya. Dia bilang ada rapat di kantornya. En français, il a dit qu'il y avait une réunion dans son bureau. Kantor, kantor, en français, bureau. Manager, manager, en français, gérant. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. En français, il a toujours été occupé depuis qu'il est devenu gérant. Kamu orang Amerika ya? Kamu orang Amerika ya? En français, êtes-vous américain? Minggu depan, en français, semaine prochaine. Kamu bekerja di perusahaan ya? Kamu bekerja di perusahaan ya? En français, vous travaillez dans une entreprise, n'est-ce pas? Dosen, en français, professeur. Kuliah lagi, en français, lecture à nouveau. Harus istirahat, en français, devoir se reposer. si vous savez déjà ou que vous soupçonnez quelque chose, mais que vous voulez en être sûr, vous pouvez ajouter le mot « ya » à la fin de la phrase, comme dans le dialogue. Enda a dit « Joko belum pulang ya ?»« Joko belum pulang ya ?» En français, « Joko n'est pas encore rentré, n'est-ce pas ?» Enda savait ou devinait simplement que Joko n'était pas encore rentré à la maison. Il a demandé à Tony seulement pour être sûr. Les autres exemples. Kamu orang Amerika ya? Kamu orang Amerika ya? En français, vous êtes américain, n'est-ce pas? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya? En français, tu vas en Indonésie la semaine prochaine, n'est-ce pas? Kamu bekerja di perusahaan asing ya? Kamu bekerja di perusahaan asing ya? En français, vous travaillez dans une société étrangère, n'est-ce pas? De telles phrases ne sont utilisées que dans la conversation. Les autres exemples. Joko belum pulang ya? Joko belum pulang ya? En français, Joko n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. En français, oui, il a dit qu'il y avait une réunion dans son bureau. L'autre exemple de dia bilang ou il a dit que pour les phrases en direct dans une variété informelle est uniquement utilisé dans la conversation. Exemple, Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. En français, Tony a dit qu'il travaille comme cashier à la banque. Dinda bilang dia ingin jadi dosen. Dinda bilang dia ingin jadi dosen. En français, Dinda a dit elle veut être professeur. En notre exemple de variété formelle, atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi. Atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi. En français, mon patron a dit que je devais retourner au collège. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. En français, le médecin a dit que je devais me reposer. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Sang mata menikah melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati rela menanti sejak terbit mentari. Jayakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja.
di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang merdu senandung asmara. Kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa.
Of Indonesia.
Kau sebut cinta, tak mungkin bisa melukai. Yakinku juga begitu. Kau sebut cinta hanya bisa saling menjaga, menjaga hati agar bahagia. Cinta takkan pernah sanggup tuk menyakiti. Berjalanlah cerita tentang Adam dan Hawa, tentang dua pecinta. Thank you. dan aku selamanya.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Notre histoire, chantée par Tompi. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia. Hanya padamu
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voicenews.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.